je m'appelle Lucie.
Bonjour, je m'appelle Martin.
Nous sommes des élèves du collège du Saut de Sabot à Saint-Jury, participant à l'atelier cinéma. Aujourd'hui, le mercredi 23 novembre, nous participons à un atelier radio avec Albigès et Mediatarn.
Nous allons vous parler du festival des œillades, un festival de films francophones, qui a lieu du 22 au 27 novembre.
Au sommaire, nous aurons la place de la femme au cinéma.
Nous rencontrerons des bénévoles du festival.
Nous parlerons du métier d'acteur.
Et échangerons autour du film Alma Viva.
Alors, nous accueillons Madame Albanel, professeure de français et animatrice de l'atelier cinéma au collège du Saut des Sabots.
Bonjour Madame Albanel.
Bonjour Martin.
Pouvez-vous nous parler de cette fameux atelier cinéma ?
Oui, bien sûr. Alors, j'anime cet atelier cinéma avec mon collègue Alain Baudry, qui est professeur de technologie, et Frédéric Astier, qui est monteur-réalisateur professionnel. Cet atelier rassemble une quinzaine d'élèves très très motivés qui viennent tous les mercredis après-midi sur leur temps libre passer 2 heures à réaliser des courts-métrages. Alors tout au long de l'année, ils écrivent des scénarios, ils réalisent des storyboards, ils jouent, ils filment, ils montent des images. Et à la fin de l'année, ils montrent leur film à tout à l'ensemble du collège. Voilà, donc ce sont des élèves très, très motivés. Et aujourd'hui, vous êtes là pour animer un plateau radio autour du cinéma. Et donc, bravo à vous.
Merci beaucoup.
Merci. Nous accueillons aussi Myriam Botteau. Bonjour Myriam.
Bonjour.
Pouvez-vous nous parler du projet en détail ?
Oui, alors donc je suis là pour représenter l'association Mediatarn, qui est une association d'éducation aux images et au cinéma qui est née en 1984. C'est très lointain. Je n'y étais pas à cette époque-là non plus. Et donc qui travaille en lien étroit avec l'environnement scolaire, avec les collèges, les écoles du département du Tarn, et notamment assez régulièrement avec votre professeur Fabienne Albanel, animatrice de l'atelier. Nous sommes là sur le département pour donner des outils et des clés de lecture des images aux élèves, la plupart du temps, en passant souvent par des propositions qui invitent les élèves à se mettre dans la pratique de l'image. Pour cet atelier un petit peu particulier, nous avons proposé à quelques enseignants qui animent des clubs ou des ateliers de vous proposer d'approcher les questions de cinéma par la pratique de la critique cinématographique et par la posture de journaliste. Donc, nous avons invité Cédric Lépine, qui est à mes côtés autour de ce plateau et qui vous accompagnera tout au long de l'émission, de vous accompagner un petit peu en tant que parrain de cette émission autour des enjeux de la critique et du journalisme culturel. Merci beaucoup à Cédric d'avoir accepté cette invitation. Je remercie aussi donc Fabienne Albanel d'avoir relayé finalement cette proposition auprès de vous. Je remercie Radio Albigès, les œillades bien évidemment, le CNC qui est un de nos partenaires et la DRAC Occitanie et le Conseil départemental du Tarn qui sont à nos côtés tout au long de l'année.
Merci à vous Madame Albanel.
Merci.
Merci à vous Myriam.
Merci.
Peut-être à bientôt sur le festival. Et pour terminer, nous accueillons Cédric Lépine.
Bonjour Lucie, bonjour Martin.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi de faire ce métier qui est critique de cinéma ?
Oui, c'est une question de plaisir. Pour découvrir le monde, le cinéma est une ouverture sur le monde et le cinéma me permet de voyager, de découvrir différentes histoires pour avoir aussi une approche citoyenne du monde. Donc le cinéma est... en tant que telle, une belle ouverture du monde.
D'accord, merci à vous.
Pouvez-vous aussi nous expliquer en quoi consiste exactement votre métier ?
Alors, il s'agit d'accompagner, j'aime bien ce terme d'accompagnement, d'être à côté de pour laisser aussi l'œuvre en tant que telle s'exprimer et aussi de créer des ponts de liens avec les personnes. Je crois beaucoup à l'intelligence collective, c'est-à-dire le fait de découvrir les films en salle, aussi pour vous, ça permet aussi de découvrir ces films-là dans leur expression optimale, avec la meilleure qualité de son, la meilleure qualité d'image, pour entrer vraiment dans le film, en n'oubliant pas que le cinéma est un art audiovisuel.
Merci à vous.
Merci à vous.
On continue avec la bande-son, Les œillades.
Je ne sais pas ce que c'est de reconstituer une scène comme ça. Est-ce que ça fait revivre ce temps-là? Pour moi, c'est du cinéma, c'est un jeu.
Il y a peu de terre-à-terre qui sont artistes. On dégage tous plus ou moins dans n'importe quel domaine créatif, que ce soit la danse, la peinture, l'écriture, une sensibilité qu'on n'arrive pas à exprimer autrement.
En prenant soi-même, en se confrontant à sa famille, à ses propres démons, on arrive à une compréhension de soi qui nous aide à comprendre les autres, en fait.
Puis à te libérer et puis à jouer, parce que la vie, c'est un jeu, je pense aussi.
T'as envie de créer avec d'autres gens comme t'as envie de jouer avec d'autres gens, c'est viens, viens jouer avec moi, là, on dirait qu'on est des personnages et on dirait qu'on fait ça. Ben, en fait, je pense que j'ai jamais arrêté de faire ça.
Il n'y a pas de barrière pour une création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à avoir peur du regard d'autres personnes. C'est ça.
On écrit sans avoir peur d'être démasqué.
Ah ben, je vais oser beaucoup plus de choses avec un personnage qu'avec moi-même. Enfin, c'est normal. C'est-à-dire qu'un personnage peut tout dire.
Ça génère énormément d'émotions.
C'est au moment que mon cerveau décroche. Pff, ça y est. Rien n'existe à mon côté. C'est comme un transe.
Quand j'écris une phrase, puis j'en écris une autre, c'est comme si c'était deux plans qui s'enchaînaient et ces deux plans peuvent soit s'accorder, soit être en rupture, soit être en contraste.
On va reprendre des morceaux de vie qu'on a eus, des sensations, on va chercher sur le visage, les expressions, le corps, comment il marche, ce personnage, comment il va bouger.
Parce que je trouve super important, dans ma démarche, de prendre ce qui vient des gens qui sont là au moment présent.
Dès lors qu'on commençait le montage, j'ai senti des très très fortes émotions monter en moi.
Il y a une reconnaissance, un sentiment intérieur qui est hyper fort et qui nous libère un instant de cette espèce d'urgence qu'on ressent en permanence, et je pense que c'est quelque chose de très beau.
Je crois que créer est nécessaire. C'est nécessaire pour y voir dans la vie quelque chose de magique.
Bonjour, je m'appelle Isman et j'ai 12 ans.
Bonjour, je m'appelle Anna.
Bonjour, je suis Tiffany.
Bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Véronique, vous êtes journaliste, vous avez aussi été rédactrice en chef du magazine de cinéma Première Vue.
Première,
excusez-moi. Vous avez aussi fondé cinewoman.fr, le premier web magazine sur les femmes au cinéma. Et vous avez créé le prix Alice Guy. Justement, en parlant du prix Alice Guy, qui est-elle et pourquoi avoir créé ce prix?
Alors Alice Guy, c'est la première cinéaste au monde. C'était l'ancienne secrétaire de Léon Gaumont et elle a décidé, en assistant à la première projection du cinéma qui avait été organisée par les Frères Lumière, elle a dit à Léon Gaumont, écoutez, c'est très bien, moi j'ai adoré, c'était très fort, mais je crois qu'on peut faire mieux qu'eux. Et il s'avère que à l'époque, les Frères Lumière posaient leurs caméras et filmaient ce qui se passait devant. Et elle a proposé de raconter des histoires avec une caméra. Et donc, on peut dire que c'est la première personne, hommes et femmes confondus, à avoir eu l'idée, à avoir eu l'intuition, disons, que l'avenir du cinéma, ce serait la fiction. C'est-à-dire qu'on pourrait raconter des histoires avec et non pas simplement filmer la réalité telle qu'elle se présentait, même si le documentaire, c'est un peu plus subtil que ça. Donc voilà, ça c'est Alice Guy. Et l'idée de faire un prix, c'était à la fois pour lui rendre hommage, parce que c'est quelqu'un qui a eu une carrière extraordinaire, mais qui a été complètement effacé par l'histoire du cinéma, qui a été oublié. Et moi, quand j'ai découvert tout ce qu'elle avait fait et qui elle était, je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour la réhabiliter, pour que les jeunes générations, comme vous, soyez au courant de qu'il y avait eu en fait dans l'histoire des personnalités fortes et qui puissent être inspirantes pour que vous choisissiez votre destin à vous. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, à l'époque où j'ai créé ce prix-là, les réalisatrices étaient très peu dans les palmarès de cinéma, dans les grands palmarès de films. Et donc l'idée, c'était de leur faire un prix qui leur soit réservé pour qu'elles aussi aient des prix. Alors avoir des prix, bon, c'est pas une fin en soi, mais quand on regarde dans l'histoire, quand on s'inscrit dans l'histoire, on s'aperçoit que plus les films ont des prix, plus ils sortent du lot, plus on s'en souvient, et donc ça permet de travailler à la postérité en fait de ces créatrices. Et il y a beaucoup de femmes qui méritent ça, qui ont un peu du mal avec la postérité, justement parce que la postérité est vraiment dure, plus dure avec les femmes qu'avec les hommes. Et là, c'est un moyen justement de leur rendre cet hommage-là, de les inscrire dans une certaine postérité.
Ok, merci.
Pensez-vous que la situation s'améliore pour les femmes au cinéma ?
Alors, ça, c'est un sujet vraiment crucial. Alors, on pourrait dire que oui, parce qu'on a l'intuition que finalement, à partir du moment où on s'intéresse à ça, finalement, quand on commence à faire attention en fait, à ces sujets-là, finalement, on se dit, non, mais c'est pas si mal, il y a quand même des femmes qui font des films, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes qui font des films. Et malheureusement, quand on analyse les chiffres et quand on se rend compte des chiffres, le constat est très cruel parce que ça ne change pas, ça ne progresse pas. Et cela, même s'il y a des politiques qui sont très favorables, qui sont mises en place, à court terme, là, en tous les cas, sur les 5 dernières années, il n'y a pas eu d'évolution et surtout pas d'évolution majeure et même pas d'évolution dans le bon sens. C'est-à-dire que ça a plutôt tendance à régresser qu'à s'améliorer, ce qui est... Donc c'est difficile de se dire qu'est-ce qu'on peut faire justement, parce que là il y a quand même une mobilisation massive pour essayer de changer les choses, et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change vraiment et durablement pour vous en fait, parce que c'est évidemment pour les générations à venir, donc pour que vous puissiez choisir votre avenir, enfin c'est surtout les filles, pour que vous puissiez choisir votre avenir tel que selon vos vœux et non pas selon les possibilités qui sont offertes à vous.
Ok, merci.
Avez-vous des idées pour que les femmes aient plus de postes importants dans l'art du cinéma ?
Alors moi, j'essaye de les aider comme je peux. Moi, évidemment, je ne peux pas tout faire, de toute façon. Puis c'est pas il faut que ce soit une volonté très, très importante. Je pense que la première chose, c'est d'en parler. Parce qu'en parler, ça permet d'en prendre conscience. C'est comme de compter. Le slogan, c'est « compter les femmes pour que les femmes comptent ». Donc ça permet aussi de rendre des faits objectifs contre les intuitions en fait, qu'on peut avoir, en se disant, très bien, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup plus de films de réalisatrices, peut-être, mais en même temps, dans la réalité, si on les compte, il n'y en a pas autant qu'avant. Enfin, ça ne bouge pas. Donc voilà, il y a tout un tas de... Il y a tout un tas d'actions qu'on peut faire, en parler, effectivement, mettre des réalisatrices en avant, par exemple, puisque les réalisatrices, ça entraîne derrière des héroïnes, ça entraîne aussi des chefs de poste aussi, souvent, parce qu'elles choisissent plutôt des femmes, en fait, pour travailler avec elles. Donc, toutes les actions, chacun peut apporter sa petite goutte, en fait, à l'édifice, mais c'est compliqué, manifestement, puisque les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. Et puis, il ne faut surtout pas perdre la foi, quoi. Mais en parler le plus possible, alors, en écrivant des livres, là, puisque je vois que vous avez mon livre, ou en entretenant le site, en créant le prix, et puis en faisant des conférences le plus possible pour sensibiliser. Mais il y a sûrement d'autres choses, et puis peut-être que vous aurez des idées très neuves, en fait, pour que ce soit plus efficace, c'est possible.
J'ai entre mes mains un de vos derniers ouvrages, 100 grands films de réalisatrices. C'est d'ailleurs un bel ouvrage avec Inès Varda en couverture. Comment avez-vous fait pour choisir ces 100 réalisatrices ?
Alors, merci beaucoup pour tes compliments déjà, ça c'est la première chose. Comment j'ai fait ? Alors déjà j'avais une assez bonne connaissance du cinéma, j'ai l'habitude de dire que j'ai mis 20 ans à l'écrire et finalement 6 mois, puisque c'est à force d'aller voir des films de réalisatrices des films de réalisatrices en particulier que j'ai fait ma sélection. Alors il y a forcément dedans des films qui s'imposent parce qu'ils ont fait date en fait dans l'histoire de cinéma, ça, même si on n'est pas tous d'accord sur quels films sont les plus importants, il y a quand même des films qui ont été majeurs, qui ont apporté des choses complètement novatrices ou différentes. Alice Guy qui fait le premier film avec une fée, par exemple, bon, voilà, ça c'est un personnage irréel, alors que jusqu'à présent, on ne filmait que des gens dans la rue, par exemple. Bon, ben voilà, ça, c'est quelque chose de différent. Donc, il y a une cinquantaine de films comme ça qui sont presque incontestables. Et les autres, alors, j'ai essayé de mettre en avant, en fait, les films qui avaient eu une portée significative, par exemple, en termes médiatiques, en termes de palmarès, par exemple, qui avaient permis à leur réalisatrice d'avoir des prix, ou autrement, qui avaient eu des succès publics majeurs. Donc, ça a été le deuxième critère. Et puis, les autres critères étaient dictés par la collection, parce que quand t'es auteur, ou autrice, on fait pas forcément exactement ce qu'on veut. Donc, il fallait que les films soient disponibles, c'est-à-dire qu'ils soient accessibles, en fait, aux personnes qui lisaient le livre sur des plateformes, ou en DVD, ou en Blu-ray. Donc, que les gens puissent... L'idée, c'est quand même de leur porter... qu'ils lisent le texte et qu'ils aient envie d'aller voir le film. Donc ça, c'est une contrainte très très importante, surtout dans les films de réalisatrices, parce que le patrimoine n'est pas très bien exploité. Il fallait qu'il y ait 30% de films français, donc ça limitait aussi sur les films étrangers. Et l'autre critère, donc c'était accessible, et qu'il n'y ait qu'un film par réalisatrice. Alors qu'il peut y avoir, par exemple, une réalisatrice qui a une carrière assez fournie où il y a plusieurs films en fait, qui ont été majeurs. Donc voilà, avec tous ces critères-là, ben, voilà, j'ai bâti cette liste-là. L'idée étant, enfin mon idée à moi, étant que tous ceux qui lisent le livre puissent aller voir les films, ça s'ils veulent, et puis surtout qu'ils fassent leur propre liste en disant bah « non, moi j'aurais pas mis celui-là, j'aurais plutôt mis celui-là ». Donc tu vois, pour que ce soit vivant, parce que c'est ça qui est intéressant. Et puis en plus, c'est un livre, ça paraît à une date donnée, mais il y a plein d'autres films qui arrivent derrière. Donc l'idée, c'est que tu complètes, par exemple, je sais pas, que tu prennes ton crayon, tu rayes en disant « mais non, mais depuis, il y a eu beaucoup mieux que ça sur tel sujet, moi je vous recommande ça ». Toi, l'idée, c'était un peu ça. Que ce soit une liste qui bouge en permanence, mais avec cette base-là, en fait.
Donc, on vous dit au revoir et merci d'avoir répondu à nos questions.
Bah, c'est très gentil à vous d'avoir bien voulu m'interviewer. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et plein de courage pour les invités suivants.
Nous rappelons que vous êtes journaliste. Au revoir et à bientôt au festival.
Oui, merci beaucoup. Merci pour l'accueil à Albi.
Je m'appelle Julia, j'ai 12 ans.
Bonjour, moi c'est Aubin.
Bonjour, je m'appelle Martin.
Dans le cadre du Festival des œillades, nous recevons deux bénévoles, Bastien.
Bonjour.
Et Camille.
Bonjour.
Bonjour. Pouvez-vous nous parler un peu plus de la 26e édition de ce festival ?
Alors, donc c'est une édition qui fait la part belle aux femmes. Donc on a décidé de mettre les femmes à l'honneur comme thème principal, puisque nous avons une bonne proportion de notre programmation qui est réalisée par des femmes. Donc voilà, c'est la spécificité de cette édition. Et donc après, sinon on retrouve comme tous les ans de nombreuses avant-premières avec de nombreux invités. On a aussi cette année une table ronde. Donc toujours sur le thème du cinéma au féminin, sur la place des femmes dans le cinéma. Et sinon, voilà, nous avons aussi quelques... Donc nous avons Jérémy Régnier qui est l'invité d'honneur du festival, avec une carte blanche. Donc il a programmé quelques films dans le cadre de cette carte blanche. Voilà.
Pourquoi être bénévole sur ce festival ?
Alors, je vais commencer par parler, après je te laisserai. Donc déjà parce que j'aime le cinéma, donc c'est ça qui m'a poussée au départ à rejoindre l'équipe du festival. Et puis parce que oui, j'aime l'idée qu'il y ait un festival de cinéma à Albi, donc d'y participer, ça permet qu'il existe. Parce que c'est une équipe qui est voilà, dans laquelle il y a une bonne ambiance, on aime beaucoup passer des moments ensemble toute l'année, voilà, il y a régulièrement des réunions qui sont des moments généralement très sympathiques, et le festival en soi est vraiment la clé d'orgue de notre action, mais c'est vraiment quelque chose qui est sur toute l'année, qui est très convivial, voilà.
Et pour ma part, à la base, en fait, moi, je suis rentré dans le festival et, en tant que bénévole, en tout cas, parce que j'avais réalisé un petit court-métrage. Et donc, je l'ai envoyé aux Oeillades et je me suis dit, mais en fait, ça parle de cinéma, j'aime le cinéma. Pourquoi je participerai pas, quoi? Et au fil des années, effectivement, il y a des gens très différents qui m'ont beaucoup apporté, quoi. Et c'est à chaque fois un plaisir de parler cinéma, de découvrir des nouveaux films. Parce que, en fait, en amont du festival, on fait la programmation, c'est-à-dire qu'on visionne beaucoup de films, on en discute. Et ceux qu'on n'a pas eu le temps de voir dans la programmation, en fait, on a le temps du festival pour vraiment en profiter. Et on peut passer une journée à voir 5 ou 6 films, quoi. Et même si dans notre vie de tous les jours, on ne prend pas ce temps pour aller au cinéma, là, on a une semaine qui est consacrée qu'à ça. Et moi, je me régale, quoi. Ça me fait vraiment du bien. D'accord. Voilà.
Pouvez-vous nous dire concrètement qu'est-ce que ça signifie d'être bénévole dans ce festival ?
Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Du coup, bah, ça signifie juste apporter de soi pour que le festival puisse exister en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on aime faire. Donc ça peut, en fait, il y a tout un tas de tâches. Ça peut, par exemple, donc je l'ai dit, participer à la programmation. Ça peut organiser, ça peut être organiser les repas, ça peut être présenter les séances, parce qu'il y a des bénévoles qui présentent les séances. Ça peut être à la caisse aussi pour accueillir les gens. Moi, par exemple, en tant que bénévole, je fais un petit clip pour annoncer le festival. Voilà. C'est apporter de soi pour que le festival puisse être cool et que ça fonctionne, quoi.
Voilà, il y a vraiment, au niveau concret, il y a tout un tas de tâches qui sont à la fois sur le festival, mais aussi pendant toute l'année, parce qu'il y a plein de choses à faire pendant l'année, et plus on s'approche du festival, plus il y a de choses à faire, et après, pendant le festival, ouais, c'est vraiment très, très varié, hein, c'est... Il y en a qui vont chercher les invités, qui les ramènent, qui les accueillent à l'hôtel. Tout ce qui est accueil donc à l'espace conférence ici pour accueillir les gens, qui est donc l'espace accueil du festival vraiment. Il y a les entrées sorties, les entrées juste au cinéma, il y a et vraiment plein de choses. Il y a la compétition de court-métrage, distribuer les bulletins de vote et les récupérer, les compter, c'est très varié.
D'accord.
Pour vous, qu'est-ce que le festival des Oeillades ?
Oula ! Un moment habituel dans ma vie, puisque ça fait depuis 2008 que je suis bénévole sur les Oeillades. Donc c'est un moment, un point de repère quelque part dans l'année, et puis des habitudes aussi, parce qu'on a régulièrement des réunions toute l'année. Ouais, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie, pas complètement au quotidien, mais pas loin.
Ouais, pour résumer ça, si je pense l'avoir un peu exprimé, c'est de l'amitié, des copains, du cinéma, évidemment. Et ouais, une parenthèse qui, en tout cas, me fait beaucoup de bien de l'année, parce que focalisé sur l'art et les échanges, quoi.
D'accord.
On rappelle que vous êtes bénévole. Merci beaucoup à vous deux en vous souhaitant une bonne continuation sur ce festival et peut-être vous revoir.
Merci. Merci à vous pour ces questions.
Bonjour, je m'appelle Lucie.
Bonjour, moi c'est Clémence.
Bonjour, je m'appelle Noémie et nous sommes en présence de Jérémy Régnier. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Si jeune et déjà acteur depuis environ 30 ans. Le film L'Enfant, dans lequel vous incarniez le rôle principal, a reçu une palme d'or au Festival de Cannes en 2005. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir vous interviewer. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Nous avons une première question pour vous. Pourquoi avez-vous accepté de venir au festival et connaissiez-vous Albi avant?
Alors, je ne connaissais pas Albi. Et je suis venu au festival pour, d'une part pour vous rencontrer et pour venir accompagner un film que je vais présenter tout à l'heure et puis une carte blanche qu'on m'a proposée et j'ai pu montrer hier Albatros. C'est toujours agréable et génial de pouvoir voyager avec des films, pouvoir rencontrer un public et puis de soutenir des festivals qui ont besoin qu'on soit là derrière eux pour justement créer de l'envie, du désir et du mouvement.
Merci. Eh bien, justement, hier, on se demandait comment s'est passée la présentation d'Albatros.
Très, très, très mal. Tout le monde est parti de la salle. Non, ça s'est très bien passé. C'était en plus une projection assez tard. Mais malgré tout, les gens sont restés dans la salle. Et donc, c'était agréable. Et puis, c'est un film que j'ai fait il y a un moment, qui est sorti il y a un moment. Donc, c'est toujours délicat de parler d'un film sur lequel... on ne maîtrise plus tous les sujets parce que le temps est passé. Et là, c'était très agréable de replonger dedans avec le public et de se poser ces questions qui amènent en fait à chaque fois un film. C'est là où le cinéma aussi est intéressant, c'est d'ouvrir des discussions ou éveiller des consciences par rapport à des sujets. Et voilà, et ce film en fait partie.
Merci. Eh bien, justement, vous avez eu du retard parce que vous avez eu un problème avec des lycéens. Eh bien, justement, on se demandait une question qu'on avait écrite. Comment gérez-vous votre succès tout au long de votre carrière, là, depuis le début?
Alors, j'ai un succès qui reste totalement maîtrisable. Hein. Je ne suis pas DiCaprio ou Brad Pitt ou je ne sais pas quels sont les acteurs de votre génération. Non, c'est plutôt agréable d'être soutenu, puis d'avoir une forme de reconnaissance. Je pense que c'est l'échange, qui est le plus intéressant. C'est-à-dire que le fait de parler aux gens, d'avoir leur retour, d'avoir leur soutien, et de pouvoir d'une certaine manière renvoyer cette énergie vers eux en les écoutant et en partageant. Donc c'est plutôt une chance. C'est pas du tout un poids.
D'accord. En ayant commencé votre carrière à environ notre âge, comment gériez-vous les études et les tournages?
Je gérais assez mal les études, pour être honnête. Je suis désolé pour vos profs, mais j'étais dans un cursus scolaire qui me convenait pas vraiment. J'étais pas très heureux à l'école. Et j'ai eu la chance de découvrir, et ce qui n'arrive pas à tout le monde, de découvrir une passion. Qui m'a porté, qui était le cinéma, en tout cas le fait de jouer. Et j'ai pu mettre toute mon énergie dedans. Et j'ai pu avoir très vite une forme de reconnaissance à travers cet axe-là, ce métier que je n'avais peut-être pas au sein de mon école ou des écoles que j'ai faites. Mais je dois dire que malgré tout, l'année où j'ai le mieux réussi, c'est l'année où j'ai fait le film de La Promesse, parce que j'avais des cours particuliers avec des professeurs qui me suivaient pendant le tournage. Et je crois que c'est la meilleure année que j'ai faite toute ma scolarité. Donc voilà, mais je n'étais pas vraiment brillant.
D'accord. Merci pour votre réponse. comment prépare-t-on un film comme par exemple Clo-Clo pour incarner Claude François?
Ça prend du temps. Il faut prendre... beaucoup d'informations, se renseigner, rencontrer les gens. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer une partie de sa famille, d'avoir accès à des documents privés, et puis le travail personnel, et puis d'accepter aussi que ça j'ai mis un petit temps parce que j'avais le fantasme de me transformer carrément en Claude François, mais ce qui est impossible parce que c'est une interprétation, une réinterprétation. Du coup, il faut accepter qu'il y a aussi Claude François, et puis il y a une place aussi pour moi, Jérémy Renier, dans cette interprétation. Et donc, c'est un mélange des deux. Et ça, ça a mis un certain temps. Il y a eu 5 mois de préparation, et puis 4 mois de tournage.
D'accord. Nous avons remarqué que dans le cinéma, il existe des petites et des grosses productions. Dans lesquelles des deux vous sentez-vous le plus à l'aise ?
J'aime la diversité, j'aime changer d'univers, d'avoir la chance de pouvoir passer d'un petit tournage, d'un petit film où on est plus en famille, d'une petite troupe, à des très gros films où on est emporté par l'énergie d'un très gros plateau. C'est deux choses très différentes, mais Je trouve que on prend du plaisir dans les deux, des plaisirs différents, mais c'est chouette de pouvoir toucher aux deux.
D'accord. Ce soir passe la deuxième film pour lequel vous êtes venu au festival. Pouvez-vous nous en dire deux mots?
Alors, je pourrais vous en dire plus tout à l'heure parce que je ne l'ai pas vu encore. Mais c'est... c'est le début d'une histoire où en fait un personnage est coincé dans sa vie, à un endroit précis où il a l'impression d'être malheureux à travers sa relation familiale, à travers avec sa femme, dans son boulot. Et à un moment donné, il va couper les liens totalement, comme si il perdait totalement conscience de la réalité pour aller vers la nature et retrouver une forme de contact avec son soi profond. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Et puis à travers ça, en fait, cet acte-là, tous les gens qui sont autour de lui, qui vivent à travers lui, vont forcément évoluer aussi. Et vont au départ pas comprendre son choix, et puis au fur et à mesure vont se remettre en question.
Voilà. D'accord, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Ça va, j'ai bien répondu.
Oui, très bien, bravo.
Sur une bonne note.
Oui, très bonne note. Je vous rappelle, Jérémy Régnier, que vous êtes acteur. Merci d'avoir participé à cette interview. Au revoir.
Merci à vous.
Merci.
Bonjour, moi c'est Maxime.
Bonjour, je m'appelle Camille.
Bonjour, je m'appelle Adam.
Bonjour, moi c'est Léni.
Bonjour Madame Alves-Mera. Vous venez aux EYAD pour présenter votre premier long-métrage, Alma Viva, mais vous avez déjà fait 4 courts-métrages et 2 documentaires. Nous vous connaissons par votre métier de réalisatrice, mais pouvez-vous vous présenter autrement ?
Alors, si je dois me définir autrement que par mon métier de réalisatrice, je dirais que je suis déjà une maman de 2 enfants. Je suis une jeune femme de bientôt 40 ans et je suis quelqu'un qui aime beaucoup raconter des histoires, qui a une grande, un imaginaire en tout cas très très dynamique. J'aime beaucoup, j'ai besoin en tout cas d'avoir des rêves, des projets. Et ce que j'aime le plus, c'est de convaincre les gens qui m'entourent ou en tout cas de réunir des équipes autour de moi ou des gens de ma famille ou ma propre fille qui joue dans mon film. Voilà, j'aime réunir les gens dans mes aventures et j'aime vraiment observer les gens aussi. Voilà, je passe beaucoup de temps à observer les gens qui m'entourent, les gens dans la rue, à écouter la radio, à essayer d'être vraiment connecté à tout ce qui m'entoure parce que tout peut être source d'inspiration.
Pourquoi être passé du théâtre au cinéma et que cela vous a-t-il apporté ?
Faire passer le chapeau, récupérer quelques pièces pour aller s'acheter des glaces. Enfin, j'ai toujours eu un goût pour le jeu et d'ailleurs, je voulais être comédienne. Donc, je suis sortie de mon bac au lycée, j'ai d'abord fait des écoles pour être comédienne. Et le théâtre me faisait rêver parce que quand je rentrais dans un théâtre, et encore aujourd'hui quand je rentre dans un théâtre, c'est comme si je rentrais dans un lieu sacré. J'adore ce moment où les lumières s'éteignent, où il faut faire le silence et où devant nous on voit des acteurs faire une performance comme ça sur le moment. Donc c'est le spectacle vivant avec tout ce que ça implique de prise de risque. Et donc j'ai passé beaucoup de temps au théâtre, presque plus de 10 ans de ma vie, et j'ai bifurqué vers le cinéma pour des raisons que j'ai un peu du mal à expliquer. J'avais justement envie de raconter cette histoire très personnelle de cette histoire au Portugal, de cette petite fille qui revient l'été avec sa grand-mère, et donc c'était un long métrage
Je sentais bien que cette histoire du Portugal ne pouvait pas se passer par le théâtre. J'avais envie d'aller filmer le village de ma mère, j'avais envie d'aller filmer les visages, les paysages, les ruelles, la rivière, les maisons. Enfin, et donc le théâtre ne pouvait pas rendre compte aussi bien que le cinéma de cette ambiance qui était aussi une ambiance qui fait partie de moi. C'était moi, je suis française et portugaise et du coup voilà, j'avais envie de raconter cette autre partie de mon identité avec le cinéma. Et voilà, je suis arrivée au cinéma et ce que m'a apporté le théâtre, ben, c'est beaucoup de choses. Je pense que dans mes films, on retrouve une certaine théâtralité dans la façon que j'ai de filmer en plan large, mais aussi dans mon travail avec les comédiens. Voilà, donc j'ai bien sûr profité de mes années de théâtre pour le mettre au service du cinéma.
Pourquoi faites-vous ce métier et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier justement ?
Si je fais du cinéma, si je suis réalisatrice, c'est parce que j'adore raconter des histoires. Je crois que c'est d'abord ce qui m'anime le plus. C'est raconter l'histoire, de imaginer des personnages, être le plus crédible dans les histoires qu'on raconte, recréer les émotions. Et pour arriver à raconter ces histoires, d'abord dans un scénario, il faut savoir observer le monde qui nous entoure, les êtres humains, comment fonctionnent justement les relations entre les êtres humains. Et ça, j'adore. J'ai l'impression d'être une petite... comme si je menais une enquête à chaque fois que j'écris une histoire. Et je vais aller chercher des petits détails partout. Tout peut m'inspirer. J'aime beaucoup ce moment-là. Même si c'est un moment un peu solitaire où on est devant la page blanche et devant son ordi, je trouve que c'est un moment très, très important. Et dans le métier que je fais, après évidemment, j'adore le moment où on a trouvé les financements et que du coup on doit réunir une équipe pour concrétiser, pour incarner cette histoire. Parce qu'évidemment, un film, ça n'est pas un scénario, c'est ensuite la réalisation de ce scénario. Et là, c'est vraiment beaucoup plus stressant parce qu'il faut gérer toute une équipe, il faut prendre des décisions. C'est un moment très, très intense. Mais c'est le moment qui dure le moins longtemps, d'ailleurs, dans l'étape de travail. C'est plutôt l'écriture qui est plus longue. Et là, j'adore aussi parce que d'un coup, c'est très, très, très grisant, très excitant de réunir toute une équipe, de convaincre les gens, de choisir les comédiens et tout ça. Donc, le tournage, c'est formidable. Et puis ensuite il y a le moment du montage, de toute la post-production où là à nouveau on est moins entouré et là on a un petit peu peur parce qu'on voit aussi tout ce qu'on a raté mais aussi tout ce qu'on a réussi. Voilà, donc c'est un moment un peu plus difficile, on va dire, mais quand le film commence à prendre forme et que le montage au montage on voit que l'histoire se réalise, se concrétise bien, que le film commence à prendre forme, c'est vraiment un moment de grande satisfaction et j'adore le moment où on passe au montage son, où on fait la composition musicale parce que le film est trouvé et que le son vient simplement sublimer le travail, accentuer les émotions. Enfin voilà, c'est vraiment un moment très agréable où on se dit c'est bon, je pense avoir réussi. Mais avant de se dire qu'on a réussi, je pense qu'il faut d'abord des spectateurs et je sais que avant les premières projections du film, les premiers visionnages, j'ai toujours une très très grosse boule au ventre. J'ai toujours très peur que les gens pensent que c'est pas bien. Et j'ai besoin quand même du public, de la satisfaction du public pour me dire que finalement je peux me convaincre que le film que j'ai fait en vaut la peine. Sinon, j'ai toujours très peur. Voilà.
Que pensez-vous du thème du Festival des œillades, la place de la femme au cinéma ?
La place de la femme au cinéma, c'est un thème très important qui évidemment me fait réagir parce que Alma Viva, mon premier long métrage qui va être présenté dans le cadre de ce festival, c'est avant tout un film qui dresse le portrait de femmes de toutes les générations, des femmes qui vont chercher à s'émanciper du cadre un peu étriqué dans lequel la société les contraint. Elles viennent d'un petit village où les valeurs sont encore très conservatrices et très patriarcales. Donc on est face à des femmes qui transgressent
les règles sur ces trois générations. Et c'est des femmes qui m'ont inspiré cette histoire. C'est les femmes de cette région, les femmes du Portugal. Et je pense que nous sommes aujourd'hui en train de vivre un moment important dans l'évolution, en tout cas dans les acquis, dans la liberté que peuvent acquérir les femmes, mais que le combat est encore long, parce que malgré les avancées, malgré le fait que les femmes résistent encore aujourd'hui à travers le monde, que ce soit dans les pays occidentaux comme l'Europe ou l'Amérique, il y a encore beaucoup de féminicides, c'est-à-dire que les femmes continuent à être maltraitées par certains hommes qui n'acceptent pas justement qu'elles résistent. Et c'est quand les femmes résistent que les violences se creusent. Et on ne peut pas non plus oublier qu'aujourd'hui en Iran, des jeunes filles, des collégiennes, des lycéennes sont en train de se battre pour acquérir leur liberté, et qu'elles, malheureusement, elles sont emprisonnées pour ça, voire même elles donnent leur vie pour cette quête de liberté. Donc je pense que de parler des femmes aujourd'hui au cinéma, c'est vraiment important, parce que le cinéma, c'est aussi un outil et une façon de regarder la vérité en face, de ne pas faire semblant et surtout de ne pas se taire. Donc le cinéma est important pour mener aussi des combats de société.
Pourquoi avoir évoqué un sujet principal, le deuil, la mort, et faire jouer une petite fille sur vos deux derniers films, Chucho et Alma Viva?
Alors, si j'ai choisi d'aborder le thème de la mort, c'est parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. On va dire que la question de la vie et de la mort, avec le mystère qui tourne autour de cette question-là, est une question qui nous permet aussi d'interroger notre rapport au monde et les fondamentaux de ce qui fait de nous des êtres vivants. C'est une question que le cinéma peut aborder aussi avec peut-être moins de pudeur que dans la vie. Enfin, en tout cas, le cinéma nous permet peut-être de rendre plus acceptable ce sujet qui dans la vie est plutôt très implacable et intolérable. Donc le cinéma, il a cette capacité de rendre la mort acceptable et de la sublimer d'une certaine façon. C'est un sujet qui est souvent abordé au cinéma. Et dans mon cas, oui, j'ai fait deux films avec la même petite fille, Loa Michel, parce que en fait, on devait normalement tourner Alma Viva en 2020. Mais le premier confinement et le Covid est arrivé, et du coup on a dû attendre une année avant de tourner Alma Viva. Et donc dans l'attente de ce tournage, j'ai réalisé Ciao Ciao, qui est un court-métrage de confinement, un film que j'ai réalisé à la maison avec cette petite fille qui est ma propre fille en fait. Et du coup j'ai profité de ce moment-là, d'abord parce que j'avais très envie de... J'avais même pas une envie, c'était un besoin, une nécessité de raconter... l'impossibilité qu'on a eue au moment du confinement de se réunir pour célébrer nos morts, c'est-à-dire que les funérailles ont été interdites pour les familles, et donc je voulais témoigner de ce moment inédit de notre histoire à travers le film Ciao Ciao. Et en plus, il s'avérait que j'avais donc ma fille qui est une jeune comédienne à la maison, et donc je pouvais aussi profiter de ce court-métrage pour travailler avec elle la question du deuil qu'elle allait aborder ensuite dans le long-métrage. Donc elle a eu l'occasion de travailler deux fois sur ces thématiques.
Comment avez-vous fait pour que votre fille écoute et apprenne son texte pour le tournage ?
Alors oui, Loa Michel, la protagoniste du film qui a 8 ans quand elle tourne, a dû faire beaucoup d'efforts pour pouvoir aller au bout de ce grand défi qui était de porter le premier rôle d'un long métrage. D'abord, c'est une petite fille qui naturellement a une grande capacité de concentration. C'est une qualité très importante au cinéma, parce que quand une scène commence, quand on dit action, il faut vraiment pouvoir rester très concentré, et puis surtout pour arriver à aller exprimer des émotions aussi intenses que celles de la tristesse, de la colère ou même de la joie, quelle que soit l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, il faut être très concentré, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand on tourne un film.
Et donc, Loua Michel, la comédienne, avait cette capacité de concentration assez incroyable. Et surtout, elle avait aussi beaucoup d'imagination et une grande sensibilité émotionnelle. Et elle n'a pas eu besoin d'apprendre le texte parce que je ne lui ai pas fait apprendre le texte pour garder une certaine spontanéité. En fait, on parlait beaucoup des scènes, de ce qui allait se passer, de l'histoire, du personnage, parce que Loua est très différente de cette petite fille de Salomé dans le film. Loua est beaucoup plus vivante, plus extravertie que cette Salomé. Mais tout ça pour dire que on a surtout beaucoup parlé de l'histoire, des scènes. Il y avait des mots-clés que je voulais absolument qu'elle dise. Et puis ensuite, elle était plutôt libre d'exprimer avec ses mots ce qui devait se passer dans la scène. Voilà. Donc, il n'y a pas eu un apprentissage vraiment de texte comme du par cœur.
Pourquoi avoir tourné dans le village natal de votre mère et de votre grand-mère ? Ce film serait-il autobiographique ?
Alors, le film n'est pas à proprement parler une autobiographie, même si j'ai effectivement un lien très familier et très intime avec les décors que je filme, c'est-à-dire ce village, ces montagnes, et même les personnes que je filme. Pour beaucoup d'entre eux, les comédiens qui apparaissent dans le film, j'ai déjà fait un court-métrage avec eux, ou bien c'est des gens avec qui j'ai passé beaucoup de temps, parce que c'est des gens de mon village qui m'ont vu naître et que je croise tous les ans à chaque fois que je viens en vacances. Donc, j'ai un rapport très intime avec les décors, mais dans l'histoire, dans la narrative de l'histoire, c'est vraiment une fiction. Ça n'est pas une autobiographie, c'est vraiment une fiction. J'ai été chercher, je me suis inspirée en tout cas de plein d'histoires que j'ai entendues dans mon village ou dans le village de mon père. Enfin voilà, des histoires de la culture portugaise surtout, mais aussi des histoires que j'ai entendues en France, notamment au sujet de la sorcellerie. Et j'ai été chercher un peu partout pour créer, pour écrire cette histoire.
Comment appréhendez-vous la projection de ce soir ?
Alors non, je n'appréhende pas la projection du film ce soir. Au contraire, je suis toujours très très heureuse de pouvoir présenter mon film devant une salle. Je sais très bien que ce que ça représente, c'est-à-dire je sais très bien que certains vont plus ou moins aimer, d'autres vont beaucoup aimer et certains vont peut-être détester. Ça fait partie de la subjectivité du spectateur, mais moi je suis très heureuse du film que j'ai fait. Je suis très curieuse à chaque fois de partager l'émotion et les retours des spectateurs. Donc je suis très heureuse, encore une fois, voilà, de pouvoir présenter mon film ce soir. Et merci à vous pour ces questions très pertinentes. Au plaisir.
Donc je rappelle que vous êtes réalisatrice et j'invite tous nos auditeurs à aller voir votre film Alma Viva. Merci beaucoup. On se quitte avec un extrait sonore de votre film.
Avant ça, nous précisons que cette interview a été réalisée à distance car à cause des aléas, nous n'avons pas pu faire cette interview en tête-à-tête.
Anda, porque os espíritos podem se agarrar a ti.
Ele já está aqui.
Olha que esta garota não bate bem.
Vou deixar a garota.
Tens que ter muito cuidado, meu filho. Olha que o dom que tu tens pode te dar muitos problemas.
Por quê?
Porque tu tens o corpo aberto. Porque nisso nem toda a gente tem. Isso passa-se de família.
Foi ela que matou as galinhas. A garota tem o diabo.
Oh, Senhor, Santo Guerreiro, defende-me e protege-me.
Thank you.
maintenant la fin de cette émission, enregistrée le mercredi 23 novembre 2022, dans le cadre de la 26e édition du film francophone Les Œillades.
Une émission animée par les élèves de l'atelier cinéma du collège du Sceau du Sabot de Saint-Jury.
Un projet porté par Mediatarn en partenariat avec le Festival des Œillades et Radio Albigès.
Merci à Myriam Botto et Alexandre Albic de Mediatarn.
Merci à nos professeurs Madame Albanel et Monsieur Baudry.
Merci à Frédéric Castier, intervenant, et Cédric Lépine, critique de cinéma.
Merci à Melvin et Arnaud de Radio Albigès.
Merci au conseil départemental, la DRAC Occitanie et du CNC qui ont soutenu la mise en œuvre de cette action.
Merci Martin.
Merci Lucie.
Au revoir.